Bien, merci pour votre attention. L'entrelacement de la parenté forme un labyrinthe dans lequel le juriste doit savoir trouver son chemin avec sûreté. Car connaître avec exactitude la position de chacun à l'intérieur du réseau de la parenté sert à déterminer qui sera appelé à hériter dans le cas d'une succession sans testament et aussi qui doit accomplir la tâche de tuteur. Les rapports de parenté et le rapport d'alliance, c'est-à-dire le rapport qui lie un des époux au cognat de l'autre, aux parents de l'autre, sont importants, d'autre côté, pour établir qui peut légitimement refuser de témoigner. La parenté empêche également le mariage à l'infini en ligne droite et de façon plus mesurée en ligne collatérale et par affinité. On sait que l'empereur Claude avait fait éliminer par un doigt l'interdit pour un oncle d'épouser la fille de son frère afin d'épouser Agrippine la Jeune. Encore dans le champ matrimonial, une loi d'époque augustine interdisait au sénateur, à son fils et au petit-fils en ligne masculine, de se fiancer, d'épouser une affranchie ou une actrice ou une fille d'acteur. La généalogie servait aussi pour déterminer si une personne était soumise aux obligations municipales, en particulier aux prestations patrimoniales et personnelles imposées aux décurions, c'est-à-dire aux sénateurs locaux, tels que le T. Volumnius, que nous venons de voir dans le texte de Fronton. Par exemple, il pouvait être chargé de se déplacer auprès du gouverneur de province pour lui demander de l'aide pour la cité. Il n'est donc pas étonnant que les juristes romains, tout cela vu, ont été amenés à définir de la façon la plus précise les rapports et les dénominations de la parenté. J'ai dressé un petit tableau littéraire à la fin de la première page du dossier. Le juriste Gaius, toujours lui, au IIe siècle après Jésus-Christ, a fourni dans son commentaire à l'édit provincial un traité sur le gradus cognationis, les degrés de parenté, et probablement un exposé semblable dans les res quotidiane, par la suite transmis comme un traité à soi, c'est-à-dire que ce morceau de Gaius a été transmis sous une forme un peu abrégée comme un traité à soi, et enfin repris dans les institutions de Justinien au VIe siècle. Après Gaius, un demi-siècle plus tard, Paul, un autre juriste de nommé, a consacré au sujet une ample monographie De gradibus, sur les degrés, est une synthèse dans les Pauli sentenzi, les avis, les opinions de Paul. Dans toutes ces pages, de longues listes terminologiques sont établies, fascinant par leur obsession onomastique et topographique. Lisons par exemple Gaius sur l'édit provincial, sur les textes 11. Il dit « Le premier degré en haut est celui du père, de la mère. En bas, c'est celui du fils, de la fille. Au second degré, en haut, se situe l'aïeul, l'aïeule. En bas, se trouve le petit-fils, la petite-fille. Au second degré, en ligne collatérale, le frère et la sœur. Au troisième degré, en haut, se trouve le bisaïeul, la bisaïeule. En bas, l'arrière-petit-fils, l'arrière-petite-fille. Au troisième degré de la ligne collatérale, le fils et la fille du frère et de la sœur. Par conséquent, l'oncle paternel et la tante paternelle, l'oncle maternel et la tante maternelle. La lecture pourrait continuer jusqu'au sixième degré avec un nombre toujours plus grand d'individus. Ces listes de juristes offrent un regard précieux sur l'anthropologie de la parenté romaine, comme l'ont montré les études de Maurizio Bettini. Le texte de Gaius révèle, par exemple, que les anciennes avaient une image mentale de la parenté qui plaçait les ancêtres en haut et les descendants en bas. C'est une topographie de la famille que nous aussi nous partageons. Je le dis parce que vous voyez très bien qu'il emploie supra et infra, en haut, en bas. Il dit le père, c'est sur une ligne en haut, et le fils en bas. Donc, il a une image mentale très précise. Mais maintenant, il est intéressant de déterminer si dans la pensée des juristes, il existe cette image accomplie de l'arbre généalogique. Alors, nous avons déjà vu que cette idée est ébauchée avec le conseil de stirps, souche, tronc. Nous devons alors nous tourner vers un autre type d'analyse, l'iconographie. Ainsi faisant, je sortirai, je l'avoue, de mon champ professionnel, mais c'est le charme de ce genre de séminaire, de nous pousser un peu plus loin du lieu où notre racine nous détient. Le contre-coup est peut-être une certaine naïveté de mes propos, surtout du point de vue iconologique, dont je vous prie de m'excuser. Tout d'abord, nous chercherons ces traces, pour ainsi dire, en filigrane, dans les mots des juristes. Puis nous passerons aux illustrations des manuscrits en utilisant les données rassemblées dans une étude magistrale et trop peu connue par les historiens du droit, d'Hermann Schatt, paru en 1982. Paul se montre conscient des représentations graphiques des rapports de parenté. C'est le texte 12. Il dit « Gradus autem dicti sunt a similitudine scalarum. Les degrés sont ici appelés en raison de la similitude avec des échelles ou des endroits qui sont en pente. Nous y montons en passant de degré en degré, c'est-à-dire au degré qui semble naître du précédent. D'abord, il faut souligner que le terme gradus, degré, appliqué à la représentation de la parenté, appartient, selon le Thesaurus Linguae Latinae, au langage juridique. Il ne trouve presque emploi hors des textes des juristes. Donc, c'est une métaphore façonnée par les juristes. Et je crois qu'elle tire son origine justement de la loi des douze tables. Alors, la loi des douze tables, j'ai placé le texte de la loi des douze tables à la fin du passage 12 en italique. Alors, le texte dit en latin « Sint estato moritur, cui sus eris necessit, agnatus proximus familiam abeto ». Alors, si une personne meurt sans testament, « Sint estato moritur », et sans descendant direct comme héritier, « cui sus eris necessit », « escit » c'est une forme archaïque du verbe « esse »,« être »,« il n'y aura pas ». Agnatus proximus familiam abeto. L'agnat le plus proche prend le patrimoine. L'agnat, c'est le parent le plus proche en ligne masculine. Alors donc, si quelqu'un meurt sans avoir fait testament, il n'a pas de descendant, il n'a pas un fils, donc celui qui va prendre l'héritage, c'est son parent le plus proche en ligne masculine, par exemple, son frère. Un exemple typique d'agnat proche, c'est le frère. Alors, vous voyez le texte dit « agnatus proximus », le plus proche. Et c'est le même adjectif que nous trouvons dans le texte de Paul. « Ut approximo in proximum », d'un degré proche au plus proche, au suivant. « Quasi exeo nascitur », comme s'ils naissent l'un de l'autre. Alors, je pense que gradus, degré, on peut la définir comme la mesure de proximité que les juristes ont dû élaborer pour calculer la distance prévue par la loi. Donc la loi souhaitait impliquer la définition de qu'est-ce que le plus proche. Donc les juristes ont envisagé le gradus, le degré, comme la mesure de cette proximité. Il s'agit d'une métaphore. Et le juriste en est consciente. Les mots clés dans le texte de Paul est similitudo, similitude. Donc c'est la racine de chaque métaphore, la similitude. C'est une métaphore à double volet. Le premier volet est verbal, joué par le biais du verbe nasci, naître. Selon Paul, la parenté rassemble une échelle où les degrés naissent l'un de l'autre. Le verbe naître montre que les degrés sont conçus comme les membres de la famille de génération en génération. Seconde dimension de l'imagination, encore plus nettement de nature iconographique, les juristes s'envisagent les rapports de parenté comme un objet, notamment un objet architectural, une échelle. J'ose dire qu'il s'agit d'un exemple d'ekphrasis, la description littéraire d'une image. Peut-on donc croire que les textes des juristes romains étaient pourvus de schémas graphiques de parenté? Alors donc, il me semble que lorsque Paul parle de degré, il envisage un objet, donc il a une image mentale d'une représentation de la parenté. Alors donc je me demande, est-ce que le livre des juristes romains était pourvu d'une telle description diagrammatique de la parenté? Alors, comme je l'ai dit, nous ne possédons pas de texte direct des juristes romains parce qu'ils ont été anthologisés au VIe siècle, dont presque toutes les copies ont disparu. Nous ne possédons que de fragments en papyrus qui sont très importants, mais qui ne nous permettent pas de voir l'ouvrage entier. Donc nous ne possédons pas de papyrus qui nous montre des arbres généalogiques. Alors donc il faut prendre un petit détour et je vous prie, c'est le point méthodologique le plus important de mon parcours. Vous verrez que j'utilise des manuscrits de l'Antiquité tardive, donc très anciens manuscrits, mais ils n'arrivent pas au seuil des juristes romains eux-mêmes. Ils sont un peu plus récents. Donc je dois utiliser des manuscrits qui sont un peu plus récents, mais j'utilise des manuscrits et ce que je cherche à vous montrer aujourd'hui, c'est qu'ils ont gardé les traces des schémas qui étaient dans les textes des juristes romains. Donc c'est là le mécanisme de mon discours. Alors, pour commencer, on peut se tourner vers quatre manuscrits appartenant à la tradition de la Lex Romana Visigothorum, un recueil de 506 après Jésus-Christ, dont deux sont à Paris, un à Louvain, un manuscrit à Rome. Voilà. La version la mieux dessinée, celle que je vous montre, est celle du manuscrit de Paris, Bibliothèque nationale 4410. Le dessin fut publié pour la première fois par Jacques Cujas en 1564. C'est un manuscrit tardif de la fin du IXe siècle qui illustre, comme je l'ai dit, un texte du VIe siècle, l'Ex Romana Visigothorum. Et pourquoi faut-il y voir un exemple bien plus ancien qui peut être mis en relation avec la description, l'ekphrasis de Paul? En premier lieu, très important, car la loi des Visigoths puise explicitement au texte de droit romain, parmi lesquels Paul, par exemple, Gaius. Surtout, car ce schéma, comme l'a souligné un savant italien Edoardo Volterra, représente la succession comme cela était anciennement disposé par la loi des 12 tables. Donc, il s'agit d'un texte qui remonte au droit romain dans son état classique, presque archaïque, avant les transformations de l'Antiquité tardive. Car selon les 12 tables, les parents aptes à succéder étaient en premier lieu ceux en ligne directe descendante, hommes et femmes, épouses et brus comprises, qui étaient placés sous l'autorité immédiate, on disait dans la main, du père de famille. S'il n'y avait pas de descendants, s'ajoutaient les proches de la lignée masculine, les agnats dont nous venons de parler. Alors, il faut souligner la pertinence. Alors, ici, vous voyez, ego, c'est le personnage qui est en question, le personnage le défunt, c'est le personnage de la succession dont on parle de sa succession, pater, le grand-père, le grand-grand-père, on arrive jusqu'au sixième degré. Ici, nous voyons le fils. Nous voyons ici la fille, ici la femme. Alors, le fils est appelé à hériter, la fille aussi, elle aussi. La femme, elle est appelée à hériter, à succéder à Ego, à son mari, à condition qu'elle soit sous son pouvoir. On pouvait même engager un mariage sans cette soumission au pouvoir marital. Ici, vous voyez les descendants. C'est très important de se rendre compte que ici, le petit-fils, comme il est le fils d'une fille du côté féminin, ici, il ne va pas hériter de Ego parce qu'il n'est pas agna, il n'est pas un descendant masculin. Parce qu'il est un descendant d'une fille. Alors, nous avons ici là, ici, bien entendu, vous voyez les ascendants. Vous avez le frère du père, le frère d'Ego, l'oncle d'Ego, c'est-à-dire le frère du père, fils du grand-père. Et ce sont tous les, ici, vous voyez, les collatéraux. Les ascendants et les collatéraux. Donc, je pense qu'il faut souligner la pertinence iconique de cette image avec l'idée de gradus, de degré, et de la représentation qu'en faisait Paul. Mais on voit ici une construction plus complexe. L'entière organisation architecturale est en résonance, comme l'a noté Christiane Clapiche-Zuber. Et j'ai pris cette image, c'est la seule que j'ai pris de son livre, avec la primauté dans le droit romain de la domus, la maison régentée par le pater familias. Il n'y manque ni les piliers ni l'architrave d'une demeure patricienne romaine. Les deux bustes d'un homme et d'une femme, qui représentent bien entendu le couple qui donne origine à la descendance, ils ont une fonction ornementale, mais ils témoignent aussi d'une transformation du dessin, car ils insistent sur une base à deux carrés. on devrait avoir une base à un seul carré parce que il y a parce que on devait voir l'échelle jusqu'au sommet, mais pour obtenir une base plus large pour y placer les deux bustes, l'enlumineur a poussé en bas la ligne centrale. Alors donc ici, on devrait avoir le carré ici, mais on aurait eu une couple pas sur le même plan. Donc, on a poussé en bas cette ligne et on voit la conséquence. Ego, qui devait être au milieu sur l'architrave, a été poussé au-dessus. Alors donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas l'original du dessin, c'est un dessin qui a une histoire, un dessin qui avait une forme et qui, pendant le temps, a été un peu retravaillé. Alors donc, c'est une indice en plus pour dire, c'est un exemple que nous voyons dans un manuscrit d'un ouvrage du VIe siècle, mais c'est un ouvrage qui a une histoire derrière ses épaules. Donc, on peut très bien la reconduire aux juristes romains. Mais c'est surtout le contenu. Le contenu, c'est la succession selon les 12 tables. En plus d'évoquer la domus patriarcale, ce schéma avait en fonction mnémotechnique, vu que l'un des suggestions de la rhétorique Arrhenius, le plus important traité sur la mémoire artificielle, qui remonte à l'âge de Cicéron, était justement la suggestion de rassembler les informations comme des éléments architecturaux. Le lieu des mémoires, dit-il, sont les ouvrages de la nature ou de l'art propres à être facilement saisis et embrassés par la mémoire, tels qu'un palais, un intercolonnement, un angle, une voûte et autres choses semblables. La nature nous apprend donc elle-même que les choses vulgaires et communes ne la touchent pas et qu'il faut pour l'émouvoir quelques objets remarquables ou nouveaux. Que l'art imite donc la nature, qu'il invente ce qui doit lui plaire. Nous devrons donc choisir le genre d'image qui puisse rester le plus longtemps dans la mémoire. Donc, ce texte, ce dessin, ce schéma a en même temps la fonction d'éclaircir le réseau de la parenté, mais aussi de convoiter des informations qui peuvent hériter, mais aussi d'aider à les mémoriser. Alors, cette table d'agnation nous confirme donc que les livres des juristes à l'époque classique étaient accompagnés des tables illustratives des rapports de parenté, mais pas encore d'arbres, il faut l'avouer. Voyons maintenant un deuxième exemple d'ekphrasis, de description littéraire d'une image, toujours due à Paul. Alors, donc c'est le texte, c'est un texte très court mais très important, le texte 14, Stemmata cognationum, directo limite in duas lineas separantur. Le stemmata, je traduis maintenant avec un mot qui ne colle pas, mais les emblèmes de la parenté en ligne verticale se divisent en deux parties, l'une supérieure, l'autre inférieure. De la partie supérieure de la ligne, on tire aussi des lignes collatérales qui commencent par le second degré. Alors, voyons si... Alors, si vous voyez, il y a ici une ligne directe, une ligne verticale, et il dit... La ligne verticale se divise en deux parties, l'une supérieure, l'autre inférieure, et c'est là, de la ligne supérieure, on tire aussi des lignes collatérales. Alors vous voyez que c'est vraiment une description de ce que nous avons sous nos yeux. Mais dans le texte de Paul, il y a aussi ce nom stemma. Alors, stemma, signifie couronne. Couronne. Donc, le mot est porteur d'une idée végétale. C'est un nom qui était employé depuis longtemps pour décrire une décoration parlante placée dans les vestibules des maisons. Et c'est Pline, c'est le dernier texte 18 qui nous permet de l'envisager, parce qu'il nous raconte chez nos ancêtres, dans leurs atriums, dans leurs vestibules, ce qu'il y avait à contempler. Ce n'étaient pas des statues d'artistes étrangers, ni des bronzes ou des marbres, mais des visages moulés dans la cire, qui étaient disposés chacun sur une étagère particulière, en sorte qu'on avait des portraits pour escorter les convois funéraires de la famille, et que quand un individu était mort, était présent tous les peuples des membres de sa maison qui avaient jamais vécu. Les lignes des stemmas couraient alors ça et là jusqu'au portrait peint. Alors, donc, nous avons ici véritablement une représentation aristocratique de la famille romaine. Il y avait les portraits en cire des aïeuls qui accompagnaient la funéraille comme des vivants. Donc, tous les peuples familiers étaient présents aux funérailles. Et donc, on a toujours cette sensation que l'individu n'a sa valeur que dans le milieu de sa famille. Il prend sa position par rapport aux membres de la famille. Mais pendant, on les employait pendant les funérailles, mais il y avait cette exposition dans l'entrée des maisons aristocratiques, et il y avait des stemmas, on peut dire de petites branches, qui liaient une figure à l'autre en soulignant et en décrivant les rapports de génération qu'il y avait entre une figure et l'autre. Alors, cette représentation, on l'appelait stemma. Alors, lorsque Paul nous décrit les degrés, il introduit un mot qui est un peu hors lieu, parce que c'est un mot végétal. Il a dans sa mémoire culturelle le déploiement des images dans les vestibules des aristocrates. Alors, voyons si cette prudence métaphorique ne parle pas d'arbre, s'il y a quelque résonance sur le plan des images. Alors, ici, nous voyons encore un manuscrit parisien de la loi de Visigoth, et nous voyons ici une autre forme de représentation. Vous voyez une sorte de trapèze, de triangle tronqué, et vous voyez que ce triangle tronqué est sur une tige. Il y a peut-être deux branches, on ne devine pas de quoi s'agit-il, deux branches qui se déparent de cette tige. Et il y a deux figures debout sous cette figure. Alors, on peut comparer les deux figures, quoique la réalisation ici soit très... mal faite, parce que celui qui a dessiné, il n'a évidemment pas conçu l'image, il l'a copié, mais il l'a très mal copié. Donc, vous voyez, par exemple, ici, ego, on devrait trouver ici le pater, ego, pater, mais ici, on trouve la sœur. Le pater est ici, et le grand-père, qui devrait être au-dessus du père, est à son côté. Donc, il a tout brouillé, mais on reconnaît la transformation, si je peux le dire, parce que cette image n'est que l'évolution de cette image. Ici, l'étoile qui était en demi-triangle est devenue en triangle complet et les piliers qui étaient trois sont devenus en seul pilier. Donc, il y a une arborisation de la maison, pour ainsi dire. Alors, pourquoi cette transformation? Parce que ici, comme je vous le disais, c'est seulement la parenté masculine qui était comprise, mais ici, il y a aussi la parenté féminine, du côté féminine. Donc, on ne parle pas d'agnatio, on parle de cognatio, nous dirions la parenté de sangue. Donc, il y a un redoublement ici qui complète le triangle. Et vous voyez que la figure qui était centrée sur une maison commence à s'approcher à celle d'un arbre. Qui sont les figures ici? Vous voyez ici « Ego sum Theodosius Rex », parce que Théodose était un empereur qui avait codifié les droits et la loi wisigothe s'inspirait à la loi de Théodose, empereur. Et ici, vous voyez, Gaius legis doctor, c'est notre juriste Gaius. Nous avons ici l'image idéalisée, je pense, de Gaius. Je vous la montre un peu plus. On pourrait même soupçonner que les ornements, il y a des palmiers, des feuilles, mais cela n'a pas trop une signification dans le sens de l'arborisation parce que ce sont des décorations qu'on trouve même dans des édifices, donc c'est pas tellement significatif. Ce qui est plus significatif est que de l'index du manuscrit duquel j'ai pris le dessin, dans l'index, il dit ante initium Gagi, avant le début du texte de Gaius, parce qu'il y a un texte de Gaius là-dedans, avant le début du texte, arborem iure require. Cherche l'arbre du droit. Il y a une erreur, on devrait lire arborem iuris, on lit arborem iure, mais c'est, je pense, la première fois qu'on trouve le mot arbor iuris dans notre tradition. On dit toujours le synode de Doucy, qui parle lui aussi, presque au même temps, de arbor iuris. Je pense que peut-être c'est une occurrence antérieure, celle que je viens de vous montrer. Donc, celui qui lisait ce manuscrit voyait la figure que je vous ai montrée comme un arbre. Maintenant, nous pouvons voir une image qui ne fait aucun doute, c'est sans doute un arbre, parce que nous voyons les chèvres, les prés au-dessous. Ici, le texte c'est un texte très bien dessiné, c'est un code de la Notitia Dignitatum, c'est un texte qui explique l'organisation de l'Empire occidental et oriental. Il y a beaucoup de textes avec des images, et ici nous voyons une image arborisée qui peut remonter, si elle remonte véritablement à l'âge du texte lui-même, pourrait remonter aux alentours du 5e siècle. Mais nous avons seulement un apographe, celui que vous voyez, du 15e siècle, qui est un apographe du Codex Spirensis du Xe siècle, qui est perdu. Donc, nous avons ce texte que vous voyez est un manuscrit du XVe siècle. Alors, donc, il faut penser que cette image, qui est très fidèle, cela on le sait très bien, c'est très fidèle du Codex Spirensis. On doit penser que le Codex Spirensis est recopié fidèlement l'image du Ve siècle et qui est remontée elle-même aux juristes. Donc, je vais un peu plus vite maintenant et je vous montre un texte. Qui est pris des institutions de Justinien. Alors, les institutions de Justinien, nous les avons déjà citées. Ce qu'il y a de très intéressant, c'est que les institutions de Justinien disent explicitement qu'ils vont ajouter un diagramme de généalogique, pour ainsi dire, pour mieux expliquer le texte. Nous pouvons le lire très rapidement. C'est le texte 15. Il dit « Mais comme la vérité se fixe dans l'esprit plus par la foi en ce que nous voyons plutôt qu'en écoutant, nous avons jugé nécessaire, après avoir exposé les degrés, d'enjoindre une représentation dans cet ouvrage, afin que les jeunes gens acquirent une parfaite connaissance des degrés en écoutant, en regardant. » C'est Justinien qui, en dressant un manuel pour les étudiants, dit qu'il faut même utiliser les yeux pour mieux connaître et remémorer. Et donc, nous avons ici un témoignage de l'importance des arbres généalogiques apparentés avec les textes juridiques. Et je pourrais souligner, je ne le fais pas pour manque de temps, que c'est une allusion à un texte de Cicéron. Il ne faut pas se surprendre que l'empereur cite Cicéron, ça démontre seulement la culture, le niveau de culture de Byzance au VIe siècle. C'est un texte de Cicéron où il fait allusion, Cicéron lui-même, à un épisode très célèbre, lorsque Simonide reconnut, le poète Simonide, reconnut les victimes d'un effondrement auquel il avait échappé en se souvenant de la position qu'elle occupait au moment du banquet. Donc, c'est le témoignage le plus direct de l'importance du lieu de la mémoire pour remémorer. Donc, Cicéron citait Simonide et Justinien cite Cicéron, comme on peut le voir de l'occurrence de certains mots qui se trouvent dans les deux textes. Mais nous voyons le schéma. Alors, il promet un texte, le voilà. Ce n'est pas un texte tiré d'un manuscrit des institutions de Justinien directement, mais c'est un texte tiré d'un manuscrit du Xe siècle qui abrite la Lex Romana Canonice Compta, c'est-à-dire le droit romain qui a été abrégé afin de besoins ecclésiastiques. Et comme il s'agit d'une anthologie des textes de droit romain, il y a aussi des chapitres des institutions de Justinien, il y a le chapitre dédié à la parenté, et le chapitre dédié à la parenté est pourvu de ce schéma. Alors, qu'est-ce que vous voyez dans ce schéma? Alors, c'est un schéma, je peux vous le montrer, c'est un schéma pas tellement différent de ce schéma. Mais, si vous voyez un arbre, vous n'avez pas la même, vision qu'en avait celui qui l'avait copié, parce qu'il écrit ici, j'ai un peu agrandi le texte, il a écrit « Ec crux hic fieri debuit ». Il a dit « Cette croix aurait dû être placée ici ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici vous avez le texte expliqué, et le chapitre finit, se termine ici, donc il aurait dû placer le chemin ici, mais il n'y avait pas de place, donc il a laissé le signe « Ec crux hic fieri debuit ». J'aurais dû dessiner ici la croix, je n'ai pas pu, je l'ai mis dans une autre page. Mais il l'appelle « croix ». Il ne voit pas un arbre, il voit une croix. Je pense qu'il a cherché très simplement de le faire apparaître. Alors, cela ne doit pas étonner. Au VIe siècle, le droit romain était sous l'influence du christianisme. Les institutions eux-mêmes sont précédées d'une invocation au Christ, in nomine domini nostri Jesu Christi, et l'arbre devient la croix qui évoque à son tour le lignum vitae, l'arbre de la vie du paradis. Alors, l'arbre stylisé, la croix, avec leur axe vertical, leur branche horizontale, le centre où ils se croisent, sont semblables, mais ce qui change est l'œil de l'observateur. Ce qui était un arbre est devenu une croix. Déplaçons-nous vers une autre œuvre, non plus les institutions des Justiniens, mais les étymologies d'Isidore, un manuscrit du 8e siècle, le plus ancien, de Wolfenbüttel. Le dessin évoque explicitement un arbre. Les lignes nues et minces du diagramme de Justinien ont poussé depuis les racines. Des lignes verticales pointent des petites branches. Alors, que la métaphore de la famille comme arbre se soit affirmée ne doit pas surprendre. Elle est pleine de résonances qui ont été très bien décrites par Christiane Clapiche-Zuber. Elle est porteuse de l'idée d'une unité, d'un organisme vivant, d'un fort enracinement. Et cela fait un écho avec le principe généalogique tel que l'a décrit Pierre Legendre. Chacun naît image de quelqu'un. Alors, donc, on a l'impression que l'arbre est l'image de la. Qui donne l'image que toute la famille est un seul organisme. Mais cependant, cette image engendre aussi des contradictions lorsqu'on l'applique à la généalogie. Les Romains, comme nous l'avons vu dans le texte de Gaius, avaient l'idée que nous partageons que les ancêtres sont en haut, en tête. En revanche, si nous songeons les ancêtres comme aux racines du tronc, les racines sont en bas et pourtant les ancêtres se trouvent en haut. Alors donc il y a une contradiction. En somme, si la famille a un arbre, c'est un arbre renversé, comme l'homme de Platon qui avec l'âme est lié au ciel, comme l'arbre de Dante qui voit au paradis l'arbre qui prend vie en sa couronne, c'est-à-dire l'arbre de la vie qui tire sa sève de Dieu. On devrait ajouter à ces petits échantillons d'arbres renversés l'arbor iuris. En effet, pendant le Moyen-Âge, les enlumineurs, qui étaient tout à fait à l'aise avec les résonances chrétiennes de cette métaphore, renversent l'arbre. Voici un manuscrit anglais du IIIe siècle qui rapporte une lecture sur les arbres du juriste Johannes Egitanensis, dans lequel les parents soutiennent l'arbre par les racines et la descendance qui est dans les branches se tient en bas. Et c'est très curieux, j'ai copié un petit texte, on parle de lectura arboris, c'est-à-dire que l'arbre va être lu. Alors l'arbre sert pour expliquer les textes, mais il faut un texte pour enseigner à lire l'arbre. Et donc, le maître écrit, « Il faut d'abord que le docteur, l'enseignant, ouvre son livre et que l'élève fasse la même chose. Il faut d'abord que le docteur indique la cellule centrale dans laquelle il n'y a rien d'écrit et que nous appelons Joachim et dans laquelle commence et finit toute computation. Après, il doit lire la ligne en bas, etc. » Donc, il y a une lecture de l'arbre. Mais revenons à l'Antiquité et nous terminons notre séminaire. Donc, nous avons vu que dans cette panoramique, nous avons vu tous les exemplaires que nous avons examinés. Nous avons commencé par les plus anciennes qui ressemblaient à une maison.
et après nous avons vu qu'il y a une sorte d'évolution ici, une sorte de redoublement, un redoublement qui porte aussi, pour ainsi dire, le nom de l'auteur, c'est-à-dire qu'il y avait la sensation que c'était Gaius qui avait introduit cette sorte d'imaginaire généalogique. On ne peut pas tout à fait dire qu'il s'agit d'un arbre, mais nous avons vu que dans le texte de Paul, on parlait de gradus, mais aussi de stemma, c'est-à-dire de couronne. Donc il y a une idée de cette arborisation qui est accomplie ici, quoique il ne s'agit pas tout à fait d'un manuscrit juridique, dans le sens strict, c'est un manuscrit de luxe qui n'est pas strictement juridique. Donc il y a une exploitation bien plus forcée de la métaphore de l'arborisation. Et puis nous avons dans Justinien la croix. La croix, vous voyez, il n'y a pas de, on peut dire, il n'y a pas de contradiction ici, parce que la croix, la tête du Christ est en tête, donc il n'y a pas de, c'est un arbre, mais c'est un arbre qui a ses racines à nous, donc il n'y a pas de contradiction. Et l'arbre que nous connaissons est en pleine forme au 8e siècle. Donc, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous pouvons dire que nous avons vu dans le vocabulaire, dans la catagrèse des juristes, l'appel à la souche. Il y a déjà une métaphore ébauchée. Nous avons vu le mot stemma, mais nous avons vu aussi la figure de gradus, de degré. Et donc, nous voyons que les juristes ont, on peut dire, envisagé, préparé les éléments pour la métaphore de l'arbre généalogique, mais ils ne l'ont pas poussé jusqu'à la fin. Ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas vu cette image, mais si je peux me permettre une conclusion, j'y vois la même attitude que Quintilien disait à l'égard des juristes, c'est-à-dire ils sont des aimants de l'exactitude du langage. Donc, comme il parlait de gradus, insérer les gradus dans un arbre, ça engendre des contradictions, et puis il y a la contradiction des racines qui sont à la place des descendantes. Donc, ils ont vu que l'image de l'arbre, telle que séduisante elle puisse être, n'est pas tout à fait précise. Et donc, ils nous ont, je dirais, laissé la métaphore de l'arbre juridique. C'est une invention, je me permets de dire, de juristes romains. Mais ils nous ont aussi laissé, je dirais, un présage de métaphore, plutôt que la métaphore, par respect à une valeur qu'ils défendent bien plus que les images, c'est-à-dire la précision du langage. Et donc, nous avons vu que les arbres puissent être des objets à penser dans la première partie. La jurisprudence est une forme de pensée avec ses propres besoins et sa propre logique. Et nous avons vu comment ils peuvent dresser des arbres pour comprendre et mémoriser. Et par cela, je vous suis très reconnaissant de m'avoir écouté et je suis très reconnaissant, monsieur le professeur Rossola, de m'avoir suggéré de regarder les juristes romains d'un point de vue inhabituel et de faire quelques pas dans la direction d'une recherche possible sur la métaphore dans le discours juridique. Merci beaucoup.